Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
À 15h41, voici venu le moment de la bourse cash, mesdames, messieurs. David Kruk, avec nous, la financière de l'échiquier. Bonjour David.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, David, en vous levant, en vous réveillant, vous avez décidé de mettre les points sur les i. C'était ce matin au réveil et vous voici sur BFM Business en situation. Vous êtes certain vouloir mettre les points sur les i et de vous jeter à l'eau cet après-midi ?
Certain.
Pour vous, David, et c'est le message que vous venez délivrer aux investisseurs, pour vous, les marchés ne sont pas encore en zone de surachat. L'idée que les investisseurs seraient en surachat d'actions est fausse. Tel est votre message à ceux qui nous suivent. Vous l'assumez ?
Je l'assume.
Alors que les marchés sont au plus haut. Le CAC 40, là, cet après-midi, est à 8226 points, d'ailleurs. L'idée que les investisseurs seraient en zone de surachat est fausse. Voici le message que vous délivrez au marché. Pourquoi venir le dire aujourd'hui et le dire aussi clairement, David ?
Parce que tout le monde a l'impression d'avoir loupé la hausse du marché. Tout le monde a le sentiment de ne pas être assez investi sur le marché. Le marché est monté avec beaucoup de gens investis. Il y a beaucoup de frustration dans ce marché. Et je viens rassurer nos auditeurs. Guillaume. Finalement, j'ai vu une note d'UBS qui m'a passionné en disant que les investisseurs sont tous longs. Eh bien, c'est faux, dit UBS. Ils nous disent qu'en fait, les particuliers américains n'ont commencé à acheter le marché qu'en février dernier et que les 16 mois précédents, ils n'ont fait que vendre. Donc en fait, l'action d'achat n'est que depuis un mois et elle est relativement récente. Donc ce qui peut prouver qu'on va avoir une continuité dans ces achats. La deuxième chose qu'ils nous disent, c'est que le levier des fonds momentum qu'on connaît maintenant bien, les CTA, les fonds RiskCap, les fonds risque contrôle qui sont sur la volatilité, ont encore un potentiel d'ajouter du levier sur leurs fonds d'environ 550 milliards de dollars. Donc, si on ajoute le fait que la collecte equity est de 91 milliards de dollars depuis le début de l'année, si on ajoute que dans les fonds monétaires américains, il y a 8 trillions qui ne demandent qu'à s'investir en actions si les taux venaient à baisser, je ne vous parle pas des dividendes, je ne vous parle même pas du record des rachats d'actions qu'il y a dans le marché en 2023 et en 2024, puisqu'on va atteindre 1 trillion en 2024 de rachat d'actions. Je pourrais en parler deux heures, mais on n'aura pas le temps. Donc j'essaie de rassurer nos investisseurs sur ces idées fausses qui pensent que finalement tout le monde a déjà acheté le marché, tout le monde est très très long de ce marché. Et bien effectivement, il y a encore un potentiel, il y a énormément de potentiel, et peut-être que finalement ça ne vient que de démarrer.
Est-ce qu'on peut même se dire en vous écoutant que finalement le marché par défaut ne pourra que monter quels que soient les catalyseurs ? Est-ce que le marché peut se passer de catalyseurs puissants pour continuer de progresser ? David ?
C'est pas, en tout cas, on a du mal à voir ce qui pourrait le faire baisser. Mais même quand on regarde les IPO, tout ce qui est les mises sur le marché, on s'aperçoit que les performances des IPO sont assez incroyables. Tout le monde cherche à trouver des décotes. Tout le monde cherche à trouver à quel niveau. Tout le monde cherche la baisse des marchés pour investir. Et moi, le premier, et Dieu sait que ça fait déjà un certain temps que j'attends une baisse qui ne veut pas arriver, puisqu'on a eu la chance de trouver le bas de marché en octobre, mais en janvier-février, après une hausse de 20%, on s'est tous dit qu'il fallait que ça consolide. Et j'ai souvent des conversations après vos émissions avec certaines personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le buy the dip, le fameux, il est devenu introuvable. Donc ces IPO, elles font trois fois la performance des IPO de l'année dernière. On est à plus 7,6 sur les IPO américaines en moyenne depuis le début du mois, contre 2,5 en règle générale. Ce qui veut dire que tout le monde attend ces IPO. Quand on regarde Reddit, qui a pris plus de 90%, Galderma, qui a bien marché, ou quand on voit même les ABB, ce qu'on appelle les reclassements de titres dans le marché, il y a des reclassements qui se font sans décote. Je l'ai vu sur le London Stock Exchange, le LSE. Donc évidemment, tout le monde cherche à acheter avec une décote et aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc c'est ça que j'ai été venu dire, Guillaume. C'est que finalement, le potentiel est encore là d'achat sur le marché et qu'on a du mal à trouver ce qui pourrait faire baisser.
15h45, Aude nous appelle, Aude Kersulec depuis la Tour Euronext. Effectivement, la séance de l'intérieur est en direct. Aude, on est sur le CAC 40 encore en hausse. On a effectivement, comme David nous le disait, par défaut, l'impression que le marché veut continuer de monter et on n'est plus, Aude, à l'instant qu'à 3,5 points du nouveau plus haut absolu, du record absolu du CAC.
Alors, en fait, on est même passé à 8230 points il y a quelques minutes. Là, on est à 8200 voix, on est un petit peu redescendu. 8230, c'est un point de plus que le record qu'on avait précédemment. Donc, on améliore d'un point ce plus haut historique. On est un petit peu redescendu. Bon, c'est un peu... Il se passe pas grand-chose sur les marchés, mais du coup, comme on est au plus haut, il se passe quand même des choses. C'est la même chose, d'ailleurs, hein, du côté de Francfort. Le DAX est lui aussi sur ses plus hauts historiques. Il avait franchi déjà hier des records en séance en clôture. C'est encore le cas aujourd'hui, un nouveau record en séance au-dessus de 18 500 points pour le DAX à Francfort. Bah, finalement, seul Londres ne fait pas grand-chose, est à l'arrêt. Donc les indices sont quand même dispersés hein, en Europe.
Oui, mais nouveau plus haut historique. C'est une information il y a quelques instants. Nouveau record absolu du CAC 40, mesdames, messieurs. 8230 points sur notre indice. Le marché américain aussi progresse. Plus 0,3 sur le S&P, plus 0,1 pour le Nasdaq. David, on va en plus arriver au mois d'avril qui, traditionnellement, en bourse, c'est un bon mois, un mois positif. Je voyais, c'est le troisième meilleur mois boursier chaque année ou en moyenne depuis une vingtaine d'années aux États-Unis.
C'est exactement ça, entre un 7 et un 9, si vous prenez 10 ans ou 20 ans, c'est vrai. Et en plus, ce qu'il y a de très intéressant en ce moment, c'est qu'on a quand même aussi un élargissement des drivers, Guillaume. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de concentration ensemble, c'était un vrai problème des marchés qui aurait pu nous amener plus bas. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ben, il y a moins de concentration. J'ai regardé d'ailleurs l'Eurostock surperforme le Nasdaq sur un mois. C'est intéressant quand même, on voit le marché européen qui surperforme la tech. Et je regardais aussi dans les secteurs, le secteur des com services et de la tech n'arrive que depuis début février qu'en 5e et 6e position des meilleures performances sectorielles du marché. C'est quand même extrêmement intéressant. C'était nos drivers d'avant, c'était les Mag 7. La question, c'est est-ce que les 493 autres valeurs vont pas commencer à prendre le relais de ces 7 valeurs? Ça, c'est Merrill qui m'en parlait ce matin. Et Goldman ajoutait en disant si c'est ce cas de figure-là, eux qui ont 5200 points comme objectif de cours sur le S&P, ce qui est les niveaux actuels, eux disent que si vraiment les 493 autres, si l'équipondéré commence à prendre le relais de l'indice normal, on pourrait monter à 5800 avec une progression de 11%.
Oui, donc, si la tech ne repart pas à la baisse. Et alors là-dessus, il y a quand même un truc qui nous alerte. Les ventes d'actions tech de la part des insiders, ces ventes sont à un plus haut de 3 ans. Est-ce que là, il n'y a pas un signal un peu plus inquiétant malgré tout pour la suite? Peut-être une consolidation à venir de la tech?
Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher. Après, vous parliez d'avril et vous avez raison. Avril, c'est le début. On a l'impression qu'on est encore dans les résultats. On recommence des résultats. Puisque mi-avril, les banquières américaines vont commencer à nouveau à montrer leurs résultats. Donc, je pense que le juge de paix, ce sera vraiment les résultats des entreprises. Mais si les 7 magnifiques sortent des résultats qui sont convaincants, et que les 493 autres, qui sont quand même très décotés par rapport à celles-là, continuent leur progression qu'on commence à voir, et on espère sur les small limits d'ailleurs, et ben à ce moment-là, on pourra avoir un nouveau palier à la hausse sur les marchés.
Vous êtes sacrément optimiste hein, là, sur le potentiel des marchés. Non mais franchement, les investisseurs, parce que les volumes sont assez faibles, la volatilité aussi est très très faible sur les marchés, les marchés ont beau progresser, on a le sentiment que les investisseurs dorment debout. Il y a une forme de léthargie dans le marché en ce moment. Vous venez les réveiller, les secouer en leur disant la hausse n'est vraiment pas finie, il y a beaucoup d'astres là qui s'alignent pour que le trend haussier se poursuive.
Guillaume, chez votre filtre des marchés, moi je ne fais que répéter ce que les gens brillants me disent, mais en l'occurrence c'est ça. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que peut-être justement les small et mid, parce qu'on parle du marché dans sa globalité ensemble, les small et mid par contre là il y a un vrai vecteur d'intérêt et nous on commence à le voir, et je vais vous dire quelque chose que j'espère ne sortira pas d'ici, c'est qu'on commence à avoir des vrais intérêts sur l'industrie small et mid, et on voit des vrais acheteurs qui commencent à arriver au sein de la gestion et dans le marché dans sa globalité.
C'est-à-dire comment ça se manifeste ça?
On voit des gens qui investissent dans nos fonds sur les small et mid de façon assez nette, et je pense que s'ils le font chez nous, ils le font bien sûr ailleurs.
Alors, tout n'est pas rose, loin de là. D'abord, on n'est pas à l'abri d'une correction, effectivement, malgré tout, parce qu'on progresse en ligne droite hein, sur les marchés. Et puis, on a quand même certains pays en souffrance. Bien sûr, l'économie américaine éblouit par son rythme de croissance, sa solidité, mais ici, en Europe, c'est moins brillant, et notamment pour l'Allemagne. Les principaux instituts économiques allemands ont tout à l'heure abaissé leurs prévisions de croissance pour l'Allemagne, mais alors pas qu'à moitié. Hein. Ils passent directement d'une prévision de croissance d'1,3% cette année à seulement plus 0,1. Donc, c'est assez spectaculaire. Est-ce que ça, c'est impossible? Signe noir, allez.
Bon, faut dire que ces agences arrivent toujours en dernier. C'est un peu comme les agences de notation sur les dettes, ils arrivent un peu en dernier. Il faut dire que la plupart des brokers étaient déjà à ce niveau-là. Je parlais encore une fois avec Meryl ce matin qui me racontait qu'ils avaient moins 0,2 sur la MN cette année, donc beaucoup plus loin que ce que sont là où est l'agence de notation et sa dernière performance. Donc il y a beaucoup d'inertie là-dessus. Et après, bien sûr, sur l'Allemagne, il y a une vraie dépendance, mais sur l'énergie, sur la problématique chinoise, sur l'industrie, sur un budget plus restrictif. Donc il y a des raisons pour ça. Maintenant, sur 2025, on a quand même 1,4% de progression. Donc finalement, effectivement, il y a un décalage d'un an de la performance. Donc, est-ce qu'on peut en être inquiet ? Probablement pas, mais
on interroge aussi nos auditeurs et téléspectateurs hein, chaque jour sur nos réseaux sociaux. Et sur ce point aussi, c'est une question qu'on vous pose d'ailleurs. Vous pouvez continuer de répondre, vous tous qui nous suivez, sur notre fil XBFM Bourse, vous pouvez vous y abonner, ou encore notre fil LinkedIn. Après cet abaissement des prévisions de croissance par les instituts allemands pour 2024, pour l'Allemagne, est-ce que vous pensez que la BCE va devoir baisser ses taux plus tôt que prévu, compte tenu des difficultés allemandes, ou au contraire, la BCE pourra attendre le mois de juin, voire au-delà, pour baisser ses taux? Alors, vous êtes assez nombreux à voter, et pour l'instant, vous êtes quand même une courte majorité à penser que ce sera au mois de juin. La première baisse de taux sera au mois de juin, et c'est pas parce que l'Allemagne est en difficulté que la BCE accélérera son calendrier de baisse de taux. Vous faites partie de cette majorité qui vote pour le mois de juin?
Oui, je pense que ce sera pas avant juin. D'ailleurs, c'est 88% dans le marché, hein, juste dans les intentions. Mais effectivement, il y a quand même des petites problématiques au niveau de l'inflation et des salaires. Il faudra regarder de près. Bien sûr, on en a besoin pour avoir une croissance plus dynamique, mais juin semble certainement être un bon timing.
David Kruk, la financière de la Cité, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup, David, d'être venu parler cash aux investisseurs. Wall Street est en hausse. Notez la compagnie de médias de Donald Trump qui s'est introduite hier, qui a flambé hier. Ce titre continue de progresser, plus 12,5% aujourd'hui pour sa deuxième journée de cotation. Et puis demain, Trigano publiera ses résultats. Ce sera demain soir. On en parlera. On vous apportera des clés d'anticipation sur la publication de Trigano. Vous êtes assez nombreux à suivre Trigano. Ce sera à 16h10 dans Valeurs ajoutées avec les experts d'ID Midcaps.